Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Alliance Plus. Bienvenue pour notre émission. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer la figure de André Gounel, pasteur et théologien, décédé le 4 mai 2025 à l'âge de presque 92 ans, puisqu'il est né le 9 mai 1933 et qu'il est décédé le 4 mai 2025 à Montpellier. Alors, pour parler de cette grande figure de la théologie protestante libérale francophone qu'est André Gounel, je vous lis les propos du pasteur Laurent Gagnebin, tels qu'il les a écrits dans l'article paru sur le site de l'Amicale des pasteurs à la retraite. Voici l'hommage qu'il rend à André Gounel. Je le cite. Il ne s'agit pas ici d'évoquer, ne serait-ce que sous la forme d'une esquisse, les différents aspects de la très riche pensée théologique philosophique d'André Gounel, mais d'en dire plutôt une marque essentielle qui la rend si profondément attachante. Ce qui frappait le lecteur et la lectrice de chacun de ses livres, si nombreux et stimulants, c'était leur générosité. André Gounel était un théologien particulièrement attentif aux autres. Remarquable pédagogue, il savait merveilleusement simplifier sans appauvrir, analyser sans trahir ou déformer, écouter sans se mettre en avant. Théologien d'un protestantisme libéral et ouvert, lutteur pour un libéralisme qu'il voulait évangélique, il savait entendre et faire entendre. Il avait le don du dialogue. Ses contradicteurs ont ainsi plus d'une fois salué et dit leur reconnaissance à celui qui, selon eux, avait su rendre compte de leur démarche avec fidélité et sans inutile agressivité. Auteur original et penseur libre, André Gounel excellait dans la présentation des œuvres de l'histoire théologique. Son dernier livre, « Théologie du protestantisme », véritable monument auquel il venait de travailler pour une édition augmentée, apparaît prochainement, est le témoin de cette générosité créatrice. Le théologien attentif restait toujours à la fois lecteur et auteur. Lecteur généreux, certes, et simultanément auteur clair et original. Sa place dans le paysage théologique d'expression française est unique. Sa générosité a fait de lui un traducteur d'une qualité exceptionnelle, le diffuseur infatigable et le commentateur inégalé de l'œuvre de Paul Tillich, l'introducteur aussi en terre francophone, et cela avec Bernard Raymond, de la théologie du process. L'expression du dynamisme créateur de Dieu est devenue aujourd'hui une donnée, largement partagé. Rares sont celles et ceux, parmi les personnes que la théologie et les questions religieuses intéressent, qui n'ont pas le bonheur d'avoir dans leur bibliothèque un livre d'André Gounel, jugé par eux indispensable, particulièrement important et enrichissant. La générosité d'André Gounel se manifestait dans sa gentillesse. Cette dernière n'était pas une espèce de mollesse un peu facile et sans aspérité, mais une exigence qui reconnaissait, sans le moindre esprit de supériorité, l'importance de ses interlocuteurs. Une amie me disait récemment combien, quand à l'occasion d'une conférence on se trouvait au moment du repas à la même table que lui, on pouvait, en simple amateur, comprendre ses réflexions et y prendre part. On se sentait alors reconnu et participant. André Gounel avait beaucoup d'humour et aimait raconter des anecdotes savoureuses. Il ne pontifiait pas alors qu'il aurait pu le faire. Attentif aux autres, il savait répondre avec beaucoup de finesse et de clarté, d'humanité à chacun et chacune, prenant au sérieux nos interrogations et expériences personnelles. La générosité d'André Gounel se manifestait à travers sa volonté de parler à et pour ses contemporains. Il défendait inlassablement un christianisme crédible. À l'écoute de celles et ceux que les intransigeances dogmatiques et des enfermements dans des définitions d'un autre âge décevaient, il ouvrait des fenêtres et parlait pour notre temps. Ce théologien de grande classe et d'une rare envergure aurait pu se cantonner dans le seul cadre universitaire. Mais ses œuvres dépassent les frontières académiques. Ses démarches aident les uns et les autres à s'affranchir de doctrines autoritaires ou inintelligibles. André Gounel n'avait pas son pareil pour ouvrir des perspectives et penser la foi, comme le dit le titre de l'un de ses livres les plus remarquables. Penser la foi, certes, mais aussi la repenser. Sa pensée n'a rien de figé et nous tourne vers l'avenir, nous donne du courage. J'aime que les dernières lignes qu'il a écrites avec sa théologie du protestantisme soient pour dire que l'essentiel est que la parole et la grâce de Dieu nous interpellent, nous travaillent, nous transforment, nous mobilisent, nous fassent avancer. C'est magnifique que le dernier mot de son œuvre théologique ne soit pas véritablement le dernier, puisqu'il s'agit précisément là d'un dépassement. Avancer, toujours et encore. Voilà les propos de Laurent Gagnebin, rendant hommage à André Gounel, décédé le 4 mai dernier. Bien sur Radio Alliance Plus, et après avoir lu l'article du pasteur Laurent Gagnebin au sujet de André Gounel, je vous invite maintenant à l'écouter lui-même. Il explique la vie et l'œuvre du théologien allemand Paul Tillich, sur lequel il a beaucoup écrit et exposé sa pensée, sa spiritualité. Alors maintenant, je vous invite à l'écouter. C'est une production de Regards protestants qui date du 9 mai 2025. Et nous nous retrouvons juste après les paroles d'André Gounel.
Début avril 1933, Paul Tillich, professeur de philosophie à l'université de Francfort, est révoqué par les nazis, arrivé au pouvoir quelques semaines avant, en janvier. En novembre, il quitte l'Allemagne et s'embarque pour New York, où une prestigieuse faculté de théologie, probablement la plus prestigieuse à l'époque, Union Seminary, Union Theological Seminary, il y a quelques anciens étudiants là de Union, lui offre un poste. Tillich y enseignera jusqu'en 1955. Union Seminary souhaitait qu'en plus de leurs cours, ces professeurs assurent à tour de rôle une prédication lors des cultes organisés à la chapelle universitaire. Il s'agissait soit d'offices quotidiens assez brefs, soit de cultes dominicaux plus longs. Et vous avez des méditations dans ce recueil très brèves et d'autres beaucoup plus longues. Donc pour la prédication lors de ces cultes, les professeurs qui le souhaitaient, on ne les obligeait pas, mais on le souhaitait qu'ils le fassent, les professeurs se succédaient. Entre 1911 et 1918, Tillich avait prêché d'abord comme pasteur d'une paroisse de la banlieue ouvrière de Berlin, puis à titre d'aumônier militaire sur le front français de 14 à 18. De 1918 à 1933, il enseigne dans diverses universités et on n'a pas de traces de culte où il aurait prêché durant ces années. Alors après une période d'acclimatation et d'apprentissage de l'anglais, Tillich redevient prédicateur à New York dans des conditions très différentes de celles qu'il avait connues en Allemagne. Il ne s'adresse pas à des paroissiens civils ou militaires dont il aurait la charge en tant que pasteur, mais à un auditoire où prédominaient, comme le rappelait tout à l'heure James, où prédominaient des universitaires, professeurs et étudiants en théologie, bien sûr, mais aussi professeurs et étudiants dans d'autres disciplines. Ceux qui viennent à ces cultes ont de fortes exigences intellectuelles, tout en désirant entendre autre chose qu'un cours ou qu'une conférence. Et puis à côté des chrétiens, il y a aussi à ces cultes des juifs, des bouddhistes et de non-croyants qui les fréquentent par curiosité, intérêt ou recherche, mais curiosité, intérêt beaucoup. Ça fait un auditoire extrêmement composite qui convenait assez bien à Tillich, parce que Tillich n'aimait pas les cloisonnements et il avait le souci de traverser les frontières. Alors il travaille très soigneusement ses prédications. On a les manuscrits des prédications, on a les manuscrits des conférences, aucun rapport. Les manuscrits des conférences, c'est griffonné, c'est quelques phrases, c'est des indications, c'est pas rédigé. Les prédications, il les rédige extraordinairement attentivement. Et très vite, on lui demande de les publier. Et un premier recueil, mais c'est pas l'édition Princeps, ça, c'est déjà une réédition, un premier recueil, celui que je viens de traduire avec Madame Hébert, paraît donc en 48. Il s'agit donc de prédications qui ont été prononcées entre 44 et 47, donc juste avant et juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et le titre est inspiré d'un passage du prophète Ésaïe. Nous chantons d'ailleurs « Quand les collines chancelleraient ». C'est ça, c'est le même texte. Et ce titre traduit le choc que ce conflit a représenté pour des millions de gens. Le monde vacille, le monde s'écroule au risque de s'effondrer. En 1945, après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, on prend conscience que l'humanité a acquis une nouvelle arme qui risque de l'anéantir elle-même. L'Europe est ravagée, en ruine, en proie à la famine, et on découvre que les crimes et les abominations du nazisme ont dépassé tout ce que l'on avait su et tout ce que l'on avait imaginé. Et puis l'avenir paraît sombre, avec le redoutable antagonisme qui se développe entre les USA et l'URSS. Rien n'est sûr, plus de terre ferme, et on a bien des raisons de craindre le pire. Et un sentiment de catastrophe étreint les gens. Dans la première prédication de ce recueil, Tillich déclare « L'Apocalypse n'est plus une vision, c'est une réalité physique, une réalité que nous touchons. » Et plus tard, Tillich écrira que malgré le soulagement qu'apporte la fin de la guerre, l'atmosphère de cette époque était plus tragique que stimulante. L'horreur du proche passé, les désastres du présent et les menaces du futur empêchent la paix d'être vécue heureusement et ne laissent pas beaucoup de place à l'espérance. Même si New York était une ville relativement privilégiée, elle est aussi le carrefour, à cette époque, le plus grand carrefour du monde, et s'y croisent, prolifèrent et s'y approfondissent toutes les plaies et les angoisses du temps. Alors je passe au contenu de ces prédications. Alors bien sûr, on y trouve de nombreuses références au contexte que je viens d'évoquer. Ainsi, Tillich cite ce poème qui raconte l'histoire d'une jeune femme juive qui, dans le cimetière où elle se cache des nazis, accouche. Et son bébé mourra parce qu'elle n'a pour le nourrir pas de lait, mais seulement des larmes. Dans une autre prédication, il parle de ces soldats américains qui entrent dans les champs de décombres que sont devenus les villes européennes, en particulier les villes allemandes, et qui, hallucinés, imaginent leur propre cité ainsi dévastée. Il mentionne les Juifs jetés dans les camps de concentration. Tillich est un des premiers à avoir souligné les persécutions contre les Juifs, il les signale des 40. Il mentionne les exilés errant sur les routes et il dénonce ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui ferment les yeux devant la possibilité d'une destruction atomique. Toutefois, même si cet arrière-fond sombre est là et qu'on le sent, toutefois Tillich ne cultive pas le morbide. Il ne s'y complaît pas. Il ne fait pas du mal à part. Il ne développe pas une pastorale de l'épouvante. Il n'atténue certes en rien ce que le conflit qui s'achève a eu de terrible. Est-ce que la situation présente a de menaçant? Mais il s'efforce d'annoncer une confiance qui subsiste malgré tout, en dépit de tout. Malgré, en dépit. C'est très luthérien. Hein, c'est des thèmes qu'on rencontre souvent chez Luther, et vous connaissez cette confession de foi, malgré, je crois, malgré. C'est pas un optimisme facile. Dans une prédication de la fin du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, Tillich déclare « La providence ne signifie pas, je cite, « qu'avec l'aide de Dieu, tout finira bien. Beaucoup de choses se terminent mal. Il ne s'agit pas non plus de garder espoir en toute occasion. Il existe des situations qui ne permettent aucun espoir. Voici le contenu de la foi en la providence. Lorsque, comme aujourd'hui, la mort pleut depuis le ciel, lorsque, comme aujourd'hui, la cruauté exerce son pouvoir sur les nations et sur les individus, lorsque, comme aujourd'hui, la faim et la persécution condamnent à l'errance des millions de personnes, lorsque, comme aujourd'hui, les prisons et les taudis défigurent l'humanité des corps et des âmes partout dans le monde, la foi en la providence, c'est croire que les puissances démoniques et destructrices en nous et dans notre monde n'auront jamais sur nous une emprise telle que soit rompu notre lien avec l'amour qui nous exauce. Pour Tillich, au fond de l'abîme le plus profond, il n'y a pas le néant. Mais cette foi paradoxale et solide de Pâques qui surmonte, sans le nier, sans l'annuler, sans l'oublier, qui surmonte le Vendredi Saint. Et on comprend ce que Tillich développera dans un ouvrage paru quelques années après, que pour lui, la foi est avant tout courage. Courage. Courage d'affronter les négativités qui nous menacent, nous agressent et nous blessent, nous mettent à l'agonie. La foi, ce n'est pas la croyance que ces négativités se dissiperont et s'évanouiront. Ça, c'est une croyance superstitieuse. La foi, ce n'est pas de croire que nous serons épargnés, mais qu'il nous sera donné la force de faire face en toutes circonstances. Alors, ce contexte, si prégnant soit-il, n'enferme cependant pas la prédication de Tillich. Il aborde quantité d'autres thèmes, en ayant toujours le souci de les mettre en relation avec les préoccupations et aussi avec la culture de ses auditeurs. Je ne peux pas les passer en revue, j'en cite quelques-uns. Qu'est-ce que Dieu ? Qu'est-ce que Dieu ? Et Tillich a le sentiment que souvent les discours religieux qui autrefois ont su l'exprimer masquent aujourd'hui la réalité de Dieu, travestissent sa vérité, le rendent incroyable. Il faut donc en parler autrement. Dieu est profondeur, pas surface. Il est celui que personne ne possède, mais que tout le monde attend, consciemment ou non. Il est celui que l'on espère et qu'on redoute, et à qui on essaie toujours d'échapper, sans jamais y parvenir. Celui qui secoue, qui met en cause, mais qui aussi exauce. Qu'est-ce que le Christ ? Et Tillich répond, il n'écarte pas la réponse classique, il est le Sauveur, il est le Messie, mais il répond, le Christ, c'est celui qui apporte une nouvelle manière de vivre, un être nouveau. Et en 1955, il publiera un deuxième recueil de prédications sous le titre « L'être nouveau ». Tillich médite sur le temps et invite à voir dans l'éternité, non pas un futur plus ou moins lointain, non pas un monde au-dessus ou à côté de notre monde, mais une réalité que nous avons à accueillir et à vivre dans le présent. Et en 1963, paraîtra un troisième volume de prédications sous le titre « L'Éternel maintenant ».
Après avoir écouté quelques notes de musique, eh bien, je vous retrouve, chers amis, chers auditeurs et auditrices, et vous êtes bien dans l'émission Dans nos communautés avec Christian Hervault au micro et bien sûr sur Radio Alliance Plus, le 103.2 que vous écoutez maintenant. Et vous savez que vous pouvez aussi nous écouter en DAB+, ou bien sur nos podcasts que vous trouverez donc sur radioallianceplus.fr. Eh bien, nous terminons notre émission maintenant. Je vous rappelle que vous avez pu entendre tout d'abord un article que j'ai lu de Laurent Gadiobin au sujet de André Gounel, dont nous évoquons la figure aujourd'hui, puisqu'il est décédé le 4 mai 2025. Et ensuite, vous avez pu entendre André Gounel lui-même évoquer la vie et l'œuvre du théologien allemand Paul Tillich. Et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous dire au revoir. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine.